Comment l'Ukraine voit-elle le récent durcissement de la rhétorique d'Emmanuel Macron par rapport à la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine? Est-ce que les Ukrainiens attendent vraiment des troupes européennes sur le sol ukrainien? Comment vit-on le retard de l'aide américaine? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org, président du PAN Ukraine. Nous allons discuter de la façon dont la société ukrainienne traverse le début de la troisième année de la Grande Guerre et de ce que les Ukrainiens attendent maintenant des Européens et des Américains. Alors Volodymyr, notre sujet aujourd'hui est de discuter qu'est-ce qui est changé dans la perception de l'Ukraine, de ces récents changements en Europe. Nous avons entendu il y a quelques semaines seulement ce changement de rhétorique qui est propre à Emmanuel Macron, président de la République française. Tout d'abord, il a dit qu'il ne pouvait pas exclure l'emploi des troupes européennes sur le sol ukrainien. Ensuite, il y avait d'autres déclarations qui étaient aussi forte. Et donc, c'est ce changement de la rhétorique, c'est quelque chose de très peu attendu, en fait. Et donc, voilà, la première question que je te propose qu'on discute, c'est la question de comment est-ce que nous, les Ukrainiens, les sociétés ukrainiennes que nous observons dans ces réactions, comment est-ce que les Ukrainiens commencent à percevoir les Européens voilà, après de telles déclarations?
Commençons par la France. À vrai dire, les Ukrainiens ont eu beaucoup de soupçons par rapport à la France. Il faut être sincère parce que on rappelle très bien 2008. On rappelle très bien donc le fait que c'est la France et l'Allemagne qui ont bloqué la perspective plus claire de l'Ukraine à l'OTAN, de l'Ukraine et de la Géorgie. Donc, à cette époque-là, en avril 2008, il y avait un sommet de Bucarest de l'OTAN et l'Ukraine aspirait de recevoir ce qu'on appelle le Membership Action Plan, le MAP, le plan d'adhésion à l'OTAN. Et puis, c'est surtout à cause de la France et de l'Allemagne que ce processus était bloqué. Et à vrai dire, à cette époque, les États-Unis étaient pour. Les États-Unis étaient plutôt positives. Donc maintenant, on voit que c'est un changement quand même. C'est les États-Unis qui sont contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, peut-être l'Allemagne aussi. Donc l'Allemagne est plus lente dans ce changement. Et je rappelle qu'avant ces déclarations d'Emmanuel Macron sur possibilité d'envoi des troupes, il y avait aussi une déclaration que la France soutient l'Ukraine à l'OTAN. Donc, il soutient cette possibilité. Bien sûr, on se rappelle très bien aussi de Nicolas Sarkozy au mois d'août 2008 en Géorgie, quand il a finalement joué pour les Russes. Il a aidé aux Russes, au président, soi-disant président Medvedev à cette époque, de légitimer l'agression contre la Géorgie. Donc, on se rappelle aussi une position assez, pas du tout décisive par rapport à l'invasion de l'Est de l'Ukraine en 2014. Et on se rappelle de cette roussophilie traditionnelle de la France, qui date peut-être de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, aussi la position de la France ambiguë par rapport à l'agression serbe dans les guerres balkaniques. Donc, c'est quand même un changement. Et maintenant, c'est un changement un peu inattendu. Et voilà. Voilà, on peut discuter pourquoi.
On se rappelle aussi, donc, voilà, pour l'histoire plus récente, on se rappelle aussi en février 2022, en fait, très voilà, rapidement après le début de cette grande invasion russe, certaines déclarations d'Emmanuel Macron, qui étaient bien sûr très fortes, parce qu'il contenait certainement une condamnation la plus ferme, mais à la fois, il y avait des phrases comme « il ne faut pas humilier la Russie », il y avait cette crainte que la défaite de la Russie serait quelque chose qui pourrait amener d'autres conflits. En tout cas, durant les premiers mois de cette grande invasion russe, on avait ça. On se rappelle aussi d'Emmanuel Macron se présenter en tant que modérateur. Il se croyait modérateur entre le monde occidental et Poutine. Durant les jours et les semaines qui ont précédé l'invasion, on se rappelle très bien de cette longue table, donc Macron reçu au Kremlin, finalement ce qui n'a pas donné de résultat. Donc, et aujourd'hui, donc justement, un peu plus de 2 ans en fait. On attendait d'ailleurs Emmanuel Macron ici à Kiev pour le deuxième triste anniversaire de la grande invasion en février, donc c'était une visite, ce n'est pas un secret, qui était en train de se préparer. Et finalement, elle était rapportée pour une raison, une excuse de raison sécuritaire, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais plutôt, donc on attendait que la France allait sans doute se désengager encore plus, alors que ce qui se produit, c'est juste le contraire, parce que Emmanuel Macron est sorti avec des déclarations qu'il renverse la table en quelque sorte, puisque il crée pour le Kremlin en tout cas une situation de cette ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que il n'a pas dit qu'il allait envoyer les troupes françaises sur le sol ukrainien, mais il a dit qu'il ne peut pas exclure cette opportunité. C'est comme Poutine qui dit pas qu'il va utiliser l'arme nucléaire contre que ce soit l'Ukraine, que ce soit les pays européens au-delà, mais il n'exclut pas, c'est-à-dire que dans toutes les menaces étaient faites dans cette manière de créer cette ambiguïté qui paralyse l'autre. Et donc, en quelque sorte, donc on a vu aussi la réaction au Kremlin par rapport à ces déclarations d'Emmanuel Macron qui était justement très, très dynamique parce que et ces déclarations-là, elles étaient prises au sérieux. Mais notre question...
Je ne pense pas, d'ailleurs, excuse-moi, je ne pense pas que le Kremlin prend l'Europe au sérieux. Je ne pense pas que Poutine prend Macron au sérieux. Je pense que Poutine, il continue à voir les choses, continue à voir la géopolitique dans les termes de la guerre froide. On sent que l'Europe n'existe pas. L'Europe, c'est une sorte de malentendu entre les deux puissances. Et finalement, ce que je répète toujours à mes amis européens, il faut prendre au sérieux l'ultimatum, soi-disant l'ultimatum du Kremlin à 2021 à l'OTAN, qui consistait à dire que, voilà, on n'accepte pas l'élargissement de l'OTAN, il faut raccourcir l'OTAN, il faut revenir vers les frontières de 90 de l'OTAN, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans leur tête? Donc, il ne faut pas croire en géopolitique, il ne faut pas croire que tu as un espace vide en quelque sorte. Aussi, dans la théorie, j'ai entendu pas mal des experts géopolitiques français, allemands, qui disaient, je ne sais pas, au début des années 2010 et même après 2014, qu'il faut avoir un buffer zone. Il faut avoir, comment tu dis ça en français? Je ne sais pas. Buffer zone, c'est-à-dire entre les deux systèmes, il faut avoir une sorte de l'espace vide. Alors, en géopolitique, ça n'existe pas. Donc, ce que les Russes aspirent, c'est que, voilà, ils peuvent aussi diviser l'Europe de nouveau. Il faut revenir au monde entre 1945 et 1975, entre Yalta et Helsinki un peu. Donc, je veux dire les accords de Yalta et les accords de Helsinki de 1975, qui a légitimisé un peu les frontières de l'Europe. Donc, c'est ça leur but et ça reste leur but. Ça reste leur but stratégique.
Sauf que, quand même, voilà, je suis absolument d'accord avec toi que l'Europe, dans ce sens d'une grande puissance, n'existait pas en tant qu'entité comme ça unie aux yeux de Poutine. Mais justement, les réactions que nous avons, les réactions tout à fait hystériques que nous avons constatées du côté de Kremlin après les déclarations d'Emmanuel Macron, ça prouve qu'ils étaient tellement étonnés, voilà, quelque part choqués par l'audace. En fait, de ce, dans leurs yeux, petit leader européen, qu'ils ne prenaient pas au sérieux, qu'ils disent des choses qui étaient vraiment en colère. Donc, et ont pu avoir un certain changement, ce que d'ailleurs, je n'ai aucun doute que c'est ce qui était recherché aussi par la présidence française, que de s'affirmer, de rechercher cette subjectivité, si on peut dire, européenne. Sur la scène géopolitique, étant donné que justement que le pôle américain est entré dans cette période très turbulente des élections, qu'il les désengage en quelque sorte de ce théâtre européen. En tout cas, voilà ce qu'on constate sur le présent.
Mais voilà, donc la situation a changé parce que si on prend la pensée géopolitique, philosophique française après la Deuxième Guerre mondiale, l'idée que la France est un peu entre les deux, c'est-à-dire entre les États-Unis et entre l'Union soviétique, ça existait très souvent. Donc si on lit les grands penseurs géopolitiques français du XXe siècle, tels que Raymond Aron, donc lui, même s'il est atlantiste, il n'est pas du tout un homme de gauche, etc. Mais il voit le monde dans ces termes-là. Gaullisme, c'est aussi le monde un peu comme ça. Donc, il faut être entre les deux, il faut avoir cet équilibre. Et je pense que Macron, initialement, quand il a inventé cette idée de l'autonomie stratégique, il a compris que l'Europe n'est pas du tout au centre des intérêts américains. Et donc, il faut s'engager avec la Russie contre ces deux pôles nouveaux du monde actuel, c'est les États-Unis et la Chine. Alors, le problème maintenant, c'est qu'il comprend, et l'Europe doit comprendre si vite que possible, que le pôle américain peut disparaître. Il peut disparaître avec Trump, mais il peut disparaître avec aussi les démocrates et des nouveaux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se concentrer sur la Chine, ils s'abandonnent l'Europe. On voit ça à plusieurs niveaux. Et voilà, tu as un peu de vide, un vide géopolitique. Qui peut remplir ce vide ? Ce ne sont pas des Allemands qui peuvent remplir ce vide parce qu'ils sont cette faiblesse, cette complexe. Donc les Allemands ne veulent pas devenir des leaders. Donc, le Royaume-Uni...
Les militaires, les leaders économiques, et bien sûr. Si.
Les leaders militaires et même diplomatiques, les Allemands n'en veulent pas. Le Royaume-Uni a quitté. Bruxelles, la Commission européenne, peut devenir un leader et le Parlement européen, ils deviennent un peu d'un certain niveau. Mais côté géopolitique, géostratégique, militaire, nucléaire, bon, il n'y a que la France qui peut jouer son rôle. Et Macron a bien compris ça.
Et donc voilà ce changement et donc ce nouveau, voilà, la quête pour le leadership européen qui est bien le temps en fait, puisque justement voilà ce vide qui se crée de l'autre côté de l'Atlantique. Nous avons vu en fait 6 mois, ça fait déjà 6 mois de l'attente de cette aide américaine qui était pourtant promise à l'Ukraine. Et donc c'est un pas concret, mais derrière ce pas, voilà, donc derrière l'absence en fait de ce soutien à l'Ukraine, on trouve la position, voilà, donc Donald Trump, il est très loin d'être président des États-Unis actuellement, mais il définit déjà, en quelque sorte, la politique étrangère des États-Unis, ce qui crée justement des angoisses, ce qu'il peut nous arriver, et pas uniquement à l'Ukraine, mais tout aussi bien à toute l'Europe, et surtout à l'OTAN, puisque nous connaissons plusieurs déclarations très controversées, n'est-ce pas, de Donald Trump par rapport à l'OTAN. Et donc, même si tout peut changer, il peut déjà ne pas devenir président, il peut devenir président et devenir tout autre, et il peut s'approprier justement la victoire ukrainienne dans cette guerre, c'est-à-dire que de faire tout le possible pour que justement cette victoire arrive. Donc, il y a plusieurs opportunités pour l'avenir, mais dans le présent, il est très clair que l'Europe se sent un peu délaissée, un peu seule. Et donc, voilà, cette initiative du président français, il est très bien placé, donc il n'est pas seul non plus. de comprendre des choses, on peut regarder du côté de pays baltes, où en fait cette conscience de danger que représente la Russie, elle est là. On peut regarder aussi de ce leadership absolument extraordinaire de président tchèque, M. Pavel, qui a fait justement une chose absolument incroyable. Il a accompli en fait, en quelque sorte, cette promesse européenne que de livrer à l'Ukraine 1 million d'obus, donc ce qui était promis par l'Europe unie, qui n'a pas été fait parce que les stocks étaient vides. Et donc justement, un président d'un pays d'une taille, on va dire plutôt petite, quand même a pu rassembler toute une coalition avec côté français bien sûr, avec d'autres, pour chercher partout sur ce globe en fait les obus nécessaires à l'Ukraine. Et donc tout ceci est important, mais notre question, voilà, ce qu'on veut que nos auditeurs français apprennent dans ce podcast, c'est que comment est-ce que nous constatons que la société ukrainienne réagit à ce qu'on appelle, on essaie d'appeler ça, un réveil de l'Europe. Bien sûr, c'est le début de ce processus-là qu'on espère. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Mon impression, et tu me diras si tu partages cette impression, c'est quand même que la France est beaucoup discutée depuis que Emmanuel Macron avait commencé à faire des telles déclarations, n'est-ce pas ? Donc la société ukrainienne a très bien accueilli ces déclarations-là par rapport à cette ambiguïté stratégique, par rapport à l'emploi tout à fait hypothétique pour l'instant de l'emploi de troupes. En tout cas, donc ça a quand même changé cette impression-là que la France donnait durant les premiers mois et même première année de cette grande guerre.
Oui, mais permets-moi de revenir à la République tchèque, parce que la République tchèque, c'est quand même... Il faut bien voir le rôle de la République tchèque dans l'histoire globale, dans l'histoire européenne. Parce que ce rôle est très souvent négligé. Et moi, je suis... Ce qui m'énerve, c'est que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale commence par 1939. Et pourquoi 1939 ? Et pourquoi pas 1938 ? Pourquoi pas avec la partition de la Tchécoslovaquie ? La seule vraie démocratie dans l'Europe centrale à cette époque. Donc, on se rappelle très bien le fameux essai de Milan Kundera, qui est récemment décédé, la tragédie de l'Europe centrale, quand il cite le Premier ministre anglais en disant que on ne va pas mourir for a far remote country of which we know little. Donc, c'est bien sûr, on se projette cette phrase... pour la Tchécoslovaquie de 1938, pour la Hongrie de 1956, pour la Tchécoslovaquie encore 1968, et pour l'Ukraine aussi maintenant. Donc il faut pas, et pour la Géorgie d'ailleurs, 2008, il ne faut pas sous-estimer le rôle des pays qui ne sont pas vraiment très connus parfois pour des grandes puissances. Mais ces pays, comme les Tchèques nous montrent aujourd'hui, ils peuvent parfois devenir des vrais leaders. Le même, on peut dire, sur les pays, comme tu as trouvé une phrase avec la taille pas très grande, mais la taille petite, mais ce sont des grands pays en termes de leur courage, comme Danemark, comme Finlande, comme le Norvège, comme l'Estonie, comme Lettonie, comme Lituanie, comme la Suède, comme même d'autres pays. Donc on voit, comme les Pays-Bas, on voit une certaine coalition entre les pays de l'Europe de l'Est et les pays nordiques. Et c'est très bien, c'est très intéressant que Macron a beaucoup cité récemment. Après sa déclaration, il a beaucoup cité donc les pays baltes, les pays. Je pense qu'il a beaucoup, il a parlé de l'Estonie, de Lettonie, Lituanie. Donc ça, c'est pour revenir aux Ukrainiens. Ça, c'est, je pense que ça a été pris avec beaucoup de surprise. C'est-à-dire que, franchement, quand les Ukrainiens parlaient de l'Europe. C'est surtout les pays baltes qui sont des grands alliés. C'est les Polonais qui sont des grands alliés, même si avec certaines difficultés aujourd'hui. C'est plutôt la République tchèque qui est un allié, malgré à l'époque de la présidence de Zeman, etc. C'est les Roumains C'est
pas les Slovaques.
Pas les Slovaques, mais ça dépend. Il y a des grands amis slovaques aussi. Mais c'est des Nordiques, c'est des Scandinaves. Mais plutôt la France, l'Allemagne, l'Italie, un peu l'Espagne étaient sceptiques. Et là, on voit vraiment un grand changement. On a eu un changement avec l'Italie. Maintenant, on a un changement avec la France. On a un changement quand même avec l'Allemagne qui est au premier rang en termes de l'aide en Ukraine, etc. Peut-être pas au premier rang dans le côté rhétorique, etc. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Pour apporter quand même un peu d'ajustement, ce que tu dis, je suis absolument d'accord avec que cette coalition des pays de Baltes, Nordiques, etc. Mais quand même, je me rappelle, nous avons tous vu des statistiques de l'aide militaire, humanitaire, diplomatique et politique apportée à l'Ukraine depuis le jour 1 de cette grande invasion russe. Et donc, la taille, ça compte, puisque l'Allemagne, même si on peut dire qu'au niveau de la rhétorique, bien que l'Allemagne a fait énormément de progrès depuis le jour 1, donc au départ c'était des casques, aujourd'hui c'était livrer des systèmes Aristide, donc c'est un système aussi compliqué que les Patriotes, et puis énormément de matériel militaire, donc un chiffre absolu si tu veux, le leader c'est l'Allemagne. Avec cette rhétorique. Et la France, elle est aussi dans les premiers 5 ou 10 pays qui aident, tandis que malgré le fait que les pays d'une taille plus petite, ils donnent un pourcentage, la quasi-totalité de ce qu'ils ont, donc c'est moins. Donc il faut du tout. Hein. Donc, je veux dire qu'il faut du tout. Et donc, sans cette aide allemande et française aussi en termes de César, en termes de d'autres matériels qui a été déjà livré en 2022, en 2023, les troupes ukrainiennes auraient beaucoup plus du mal. C'est-à-dire que voilà, donc il y a côté rhétorique, côté geste politique et puis côté pragmatisme. D'ailleurs,
je pense que c'est ça. Macron a compris, il a compris que ce que l'Europe manque, c'est cette personnalisation. Cette personnalisation de la réponse et personnalisation du pouvoir. Et c'est intéressant, c'est que j'étais récemment aux États-Unis et j'ai parlé avec un très bon professeur de l'histoire française qui s'appelle David Bell, qui est fils de fameux sociologue de religion Daniel Bell. Et c'est notre ami David Reif, qui est le fils de Susan Zonta, qui est notre grand ami, qui a voyagé avec nous à Kherson et dans d'autres endroits, qui a fait ses connaissances. Donc, David Bell, l'un de ses livres s'appelle « The Man on Horseback ». Il raconte l'histoire des gens charismatiques qui ont fait la démocratie. Donc, il raconte l'histoire de Napoléon, de Robespierre, de Washington et d'autres. Et son argument, c'est que les démocraties, ce n'est pas seulement les procédures, ce n'est pas seulement la rule of law, donc l'état de droit, ce n'est pas seulement des règles, c'est aussi des personnalités. Donc le rôle des personnalités dans l'histoire, les leaders, les gens qui mènent l'histoire. Et finalement, je pense que les Allemands ont peur de ce type de personnalité, parce qu'il y a cette histoire de nazisme, de Führer, donc qui
est trop récente.
Führer veut dire leader en allemand, donc cette peur de leadership. Et je pense que, voilà, comme je répète, Macron a compris. Et c'est vraiment dans la tradition française, plutôt, n'est-ce pas, de cette personnalité providence. Et voilà, Macron essaie de jouer un peu ça. Ce qui m'a frappé en France, c'est que quand j'ai parlé avec mes amis français, et quand j'ai posé cette question sur leur attitude, la déclaration Macron était plutôt sceptique et plutôt négative, parfois même parmi...
Ce qui est un contraste d'ailleurs, rappelons ça aussi, ce qui était un contraste évident avec la réception de ces idées et de ces paroles ici en Ukraine.
Oui, absolument. Et il me semble que même le public éduqué pro-ukrainien en France, il est un peu en arrière par rapport à ce que Macron pense et dit. Mais leur irritation était aussi que ce n'était pas consulté avec des Allemands. et que cela irritait des Allemands. Alors, ma réponse était, malheureusement, on est dans une situation où les Allemands ont besoin d'un leadership extérieur. Donc, il était mené par des Américains. Alors, on ne donne pas des terres russes, des missiles, avant que les Américains nous donnent des Atacams, etc. Donc, on est toujours en arrière des Allemands, des Américains. Bon, comme je répète, il faut partir de l'hypothèse. Peut-être les Américains vont revenir, j'espère. On espère bien que cette aide va être votée, etc. Mais on n'a aucune garantie que c'est durable. C'est ça, il faut bien dire, on n'a aucune garantie, même si Trump ne devient pas président, aucune garantie que c'est durable, parce qu'on voit que l'Amérique, franchement, il se concentre sur ses propres problèmes, ses propres divisions. Et c'est pour cela que c'est une chance pour l'Europe, et c'est une chance pour cette autonomie stratégique européenne dont Macron rêve tellement. Et si les Allemands ne peuvent pas devenir des leaders là-dessus, il faut les Français pour cela.
Oui, si tu parles déjà de cette longue durée, de cette vision de l'avenir, c'est vrai que ce côté outre-Atlantique, il est plutôt décevant. Nous espérons bien sûr que c'est un côté temporaire qui est plutôt lié à ces élections-là, qui perturbe toute la vie politique. Et c'est vrai qu'il est quand même absurde, n'est-ce pas ? Donc avouons que c'est absurde que de voir que la cause ukrainienne et le soutien des deux partis majeurs, donc des démocrates et des républicains, les majorités des députés de ce parti soutiennent la cause ukrainienne, or que une minorité ils détiennent en otage tout le processus actuellement de le vote de l'aide de 61 milliards à l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est une perversion en quelque sorte de la démocratie où la minorité après dicte ce qui est. Mais si on parle de cette grande question de la longue durée, elle nous interpelle, elle nous intéresse. On est frappé ici en Ukraine de constater qu'il n'y ait pas de la vision stratégique pour cette guerre, pour ce conflit-là. Il n'y a pas, donc on a l'impression que les recettes du passé ne marchent pas, alors qu'il n'y a personne qui a en capacité, sauf Ukraine, parce que l'Ukraine, donc la formule de la paix de Zelensky est très bien connue, même s'il est jugé idéaliste, irréalisable par certains sceptiques en Europe, mais elle existe. Donc il existe cette vision de la victoire ukrainienne. Il n'y a personne qui peut dire que les Ukrainiens ne savent pas ce qu'ils veulent. Les Ukrainiens savent très bien ce qu'ils veulent, quelle est la formule de la paix, quelle est la formule de la victoire, quelle est la formule de la punition de l'agresseur, réparation, etc., etc. Tout est écrit, tout est les mots sur papier. Ce qui manque, c'est la version, la vision géopolitique de cette victoire ukrainienne, et donc d'où en fait les formules, tout d'abord américaines, qui ont apparu dès 2022 et 2023, c'est que nous allons soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il faut, point final, mais qu'il faut pourquoi faire pour la défaite, pour la victoire. Et donc voilà cette formule qui était considérée comme la formule la plus forte. Aujourd'hui, ce que disent les Ukrainiens, partout dans tous les panels à l'étranger, c'est qu'il faut remplacer cette formule qui ne veut rien dire, c'est-à-dire se tenir jusqu'à quoi ? Jusqu'à l'éternité, jusqu'à que le dernier Ukrainien meure, parce qu'il n'est pas soutenu par des avions F-16. Et puis, rappelons aussi que les avions F-16, ce sont des très vieux avions, en fait, parce que les armées européennes disposent des avions beaucoup plus sophistiqués, donc pourquoi pas poser cette question-là. Et donc, remplacer cette formule par une formule qu'il faut soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire définitive et jusqu'à la défaite de la Russie, alors qu'on a quand même l'impression que cette expression, que la défaite militaire de la Russie, il est évité, il est rapporté dans le temps, tout est fait de la sorte de remplacer les résultats par des processus. C'est-à-dire que c'est créer ce simulacre de la réalité où la guerre en Ukraine devient un processus qui a eu bien un début, mais comme quoi elle n'a pas le fin. Et donc, c'est son manque de résultats voulus, de la stratégie pour atteindre ce résultat qui est le plus problématique aujourd'hui.
Parce que on ne réfléchit pas sur la question de la défaite de la Russie. dans les termes qu'il faut utiliser, parce que ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a en tête toujours, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les nazis ont envahi le territoire soviétique, d'ailleurs pas le territoire russe, mais surtout le territoire ukrainien, biélorussien, voilà. Et il y a une petite partie de la fédération russe actuelle qui a été touchée par la guerre. Donc c'est surtout l'Ukraine et le Bélarus qui ont souffert. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent là-dessus. Mais voilà, il y a cette idée de la Grande Guerre sur le territoire russe, etc. On n'oublie pas les guerres dans lesquelles les Russes ont perdu, c'est-à-dire les guerres aux périphéries. La guerre de Crimée au 19e siècle, la guerre, finalement, on peut dire la Première Guerre mondiale, pourquoi pas, que la Russie a perdu, la guerre en Afghanistan, la guerre, quelle autre, donc la guerre, il y avait, on peut aussi dire aussi la guerre d'hiver contre Finlande, qui, enfin, on peut discuter qui a gagné cette guerre quand même. Mais et la guerre russo-japonaise, évidemment, donc au début du XXe siècle. Cette guerre a produit des réformes en Russie, une certaine démocratisation. Donc la guerre en Crimée a produit la libération des esclaves en Russie, la libération des Serbes. Le fameux processus de l'abolitionnisme en Empire russe, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent là-dessus. Donc la guerre russo-japonaise a produit les réformes de 1905, qui a produit la première constitution, le premier parlement. La défaite dans la Première Guerre mondiale a produit une courte période, très courte période de la guerre de
la libération.
Gouvernement libéral, on peut dire, qui a duré pas vraiment beaucoup longtemps, comme on sait. Et la guerre en Afghanistan, ça a produit quand même la chute de l'Union soviétique. C'est ça. Quelque chose qu'on doit avoir en tête, et c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que, oui, les délais dans cette assistance, les Russes se préparent, et je suis sûr qu'ils ont étudié les capacités de F-16, et maintenant, je suis pas du tout sûr que les F-16, quand elles arrivent en Ukraine, vont être si efficaces. Donc, et malheureusement, il y a, même en Ukraine, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de la victoire maintenant, à 2024, parce qu'on comprend que maintenant, malheureusement, la situation est beaucoup plus dure, on ne regagne pas notre territoire, et c'est plutôt la défense qu'on doit se concentrer. Donc, c'est
plutôt... Mais je parlais un peu d'autre chose, tout ceci est clair, mais je parlais de l'absence de la vision d'avenir. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans l'état où, en fait, c'est une impasse, bon, je ne dis pas ça comme... Voilà. C'est une impasse militaire, puisque la guerre avait changé de nature, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait comme outil de guerre durant le XXe siècle et même au début du XXIe siècle, c'est-à-dire que de damasser les troupes et puis de surprendre par une manœuvre et puis de créer le brouillard de guerre, tout ce qui marchait déjà encore pour Kharkiv en 2022, ça ne peut plus marcher parce que à cause de ce côté technologique, vraiment hautement technologique de cette guerre, du côté russe, mais aussi du côté ukrainien, c'est-à-dire que l'utilisation des drones, c'est ça de quoi parlait Zaloujny, Valéry Zaloujny, le commandant-en-chef de l'armée ukrainienne, juste avant le fait d'être limogé, c'est que stratégiquement, nous voyons, nous les Ukrainiens, nous voyons toutes les manœuvres des Russes. Nous savons ce qu'ils vont faire. Et eux, malheureusement, ils voient tout ce que nous préparons. C'est-à-dire qu'il nous faut une espèce de revirement, de changement de qualité des armements et puis d'inventions les plus modernes pour renverser la table, pour changer le cours de cette guerre. Parce que sinon, cette guerre risque de durer à l'éternité, dans les positions plus ou moins définies. Oui, la Russie continue à avancer parce qu'ils attribuent un prix un peu outré en termes de vie humaine, etc. Ils arrivent à avancer quelques quelques mètres, mais ils n'arriveront plus à faire des grands manœuvres non plus. Alors, donc c'est une grande question pour les têtes, mais voilà, la tâche étant limitée à des ingénieurs ukrainiens, à des militaires ukrainiens, à une société ukrainienne qui est déjà fatiguée de cet effort de guerre qui dure plus de 2 ans, de cette grande guerre. Et donc, il faut vraiment une petite révolution. Et donc, cette révolution technologique, je suis désolée, mais elle ne peut pas naître uniquement en Ukraine. Parce que, regardons les puissances militaires et technologiques qui sont derrière, qui se disent être nos partenaires, pas les économies occidentales, européennes et américaines, mais de ce côté-là, qu'on pourrait avoir espoir, en tout cas, de cette révolution. Parce que la Russie, en termes de obus classiques et missiles, même ultrasoniques, se procure du côté de Corée du Nord. Elle a de l'aide, bien sûr, militaire du côté de l'Iran. Les choses ne sont pas au clair avec Chine. Donc aujourd'hui, la Chine, elle n'aide pas tellement, mais personne ne peut exclure que demain ou après-demain, la Chine va être engagée d'une manière plus active. Donc, mais l'avantage que l'Occident puisse avoir dans cette guerre, elle est justement de penser à l'après-demain ou d'avoir ces stratégies-là, parce que sans l'aide de partenaires, l'Ukraine est condamnée de mener cette guerre de tranchées suicidaire, je dis, parce que on est 4 fois inférieur en termes de population par rapport à la Russie. Et donc, mais c'est là la chance aussi pour l'Occident. Et donc, c'est quand même un peu décevant de voir qu'il n'y a pas de cette stratégie-là qui permettrait justement à l'Europe de s'affirmer en tant qu'acteur géopolitique, qui permettrait à cet Occident, avec les États-Unis, de s'affirmer face aux autres dictatures telles Chine ou telles Iran qui attendent aussi comment ça va se terminer en Russie. Et donc, c'est cette absence de stratégie qui est très décevante, n'est-ce pas, pour les Ukrainiens?
Oui, je pense que les Européens, ils, malgré tout ce changement, et même malgré le changement de rhétorique chez Macron, les Européens, la majorité, ne comprennent pas le vrai danger de la Russie, le vrai danger militaire, parce qu'ils sont toujours dans le monde de la paix. Il faut regarder l'histoire. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un en Europe qui comprenait, après la guerre, après la bataille d'Austerlitz, qu'il y a quelques années, il y aura un renversement total de la géopolitique et les troupes russes seront à Paris. Et d'ailleurs, Pouchkine, le classique de la littérature russe, après les rébellions polonais en 1930, il a écrit en menaçant l'Europe occidentale, y compris les Français, que voilà, n'oubliez-vous qu'on a été récemment à Paris, on peut répéter. Donc cette idée qu'on peut répéter, donc cette fameuse phrase « Можем повторить », nous pouvons répéter, qui est phrase fameuse maintenant dans l'idéologie russe par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on peut reconquérir la moitié de l'Europe. Il revient même au XIXe siècle. Et quand il y a quelque chose de décisif dans les grandes guerres, les événements commencent à rouler très, très vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en 1942... au début de 1943, qui espéraient que voilà, l'année prochaine, 1944, et le début de 1945, la moitié de l'Europe sera libérée du nazisme, mais occupée par des troupes soviétiques. L'Europe n'est pas prête à la guerre. Donc le niveau de cette guerre qu'on a maintenant, la guerre russe en Ukraine, si le front ukrainien est failli, si je peux dire,
s'effondre,
l'Europe n'est pas prête à se défendre pour le moment. Et la Russie est prête d'attaquer parce qu'elle a militarisé son économie. Il ne sait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle doit faire avec ces troupes-là, avec ces chars-là, avec ces... Voilà, il ne sait rien à faire. Il sait faire seulement la guerre. c'est logique qu'il va considérer la possibilité de la conquête militaire de l'Europe. Voilà, je pense que c'est l'hypothèse par laquelle on doit partir. Et c'est ce que j'ai dit depuis des années, à partir de 2014, pour l'Europe, c'est soit vous élargissez, soit l'Europe s'élargit, et pour l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie et d'autres, Biélorusse peut-être, soit il se raccourcit. Il ne faut pas croire que les frontières de l'Europe seront telles qu'aujourd'hui. Maintenant, on est dans un flou géopolitique. On n'est pas dans une situation où les frontières sont stables. Ils ont été déstabilisés déjà. Voilà. Il faut oublier le monde où les frontières sont stables. La Russie a détruit ce monde. Alors, soit on élargit notre espace européen, soit... C'est la Russie qui s'élargisse et la Russie s'élargisse par des moyens pas du tout paisibles que l'Europe.
Pas par des moyens diplomatiques et politiques, mais par des chars et des provocations. Voilà, ce que tu dis, c'est bien sûr sérieux, mais voilà, une petite bémol sur ça. Ce n'est pas forcément qu'on verra les chars russes avancer jusqu'à Berlin ou Paris, mais il suffit de missiles qui volent aujourd'hui déjà au-dessus de la Pologne. Donc, comme plusieurs fois déjà, et donc tout récemment, 39 minutes, un missile russe volait dans l'air polonais, alors que les Polonais le regardaient pour la Pologne, puis de l'OTAN regardait voler jusqu'à l'Ukraine en disant que voilà, ce missile ne constituait pas un danger direct pour nous, ce qui est bien douteux comme déclaration, parce que la prochaine fois, le missile peut atterrir en Pologne, et qu'est-ce que déjà vous allez faire, parce qu'il y a l'article 5, et donc ça va engager tout le monde. Merci Vladimir pour cette conversation. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org et président du PEN Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.